C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Parmi les près de 200 États reconnus à travers le monde, il y en a un qu'on connaît pour son rôle tout particulier dans l'histoire, l'histoire avec un grand I, et sa caractéristique principale, sa superficie. Le Vatican, le plus petit État du monde avec son demi-kilomètre carré, est aussi le moins peuplé. 825 habitants, les Vaticanais, y habitent. Pour étudier cet État des plus particuliers et les personnages illustres qui y sont passés, faisons appel à la fine équipe de l'histoire avec un grand I. Bonjour Benoît Laverbe.
Bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Thierry Lafleur.
Bonjour.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Première question géographique pour vous messieurs. Peut-on faire un rapide topo sur la situation du Vatican? Où se situe-t-il? Quelles sont ses particularités?
Alors le Vatican, donc géographiquement pour ceux qui ne le savent pas, se situe bien sûr au sud-ouest de l'Italie. Sur la côte, donc voilà, comme vous l'avez dit, tout petit État, vraiment enclavé dans une Italie aujourd'hui en paix.
Une Italie aujourd'hui en paix, je suppose que si vous le présentez comme ça, c'est que ça n'a pas toujours été le cas.
Oui, bien sûr, parce que le Vatican, dans l'histoire, a toujours et inlassablement été attaqué par l'Italie.
Ça a été un des pays qui a été en guerre le plus longtemps en réalité.
Le Vatican.
Le Vatican, c'est le pays du monde qui a été en guerre le plus longtemps. Effectivement, la plupart du temps contre l'Italie, pour une raison très précise, c'est que le Vatican prenait en otage les papes.
Le Vatican prenait en otage les papes, papes qui venaient d'Italie, si je comprends bien.
Oui, voilà. Alors,
et du coup, l'Italie n'était pas très très contente.
Exactement. Donc l'Italie avait un peu cette mission divine à chaque fois de sauver le pape. Il se trouve que voilà, aujourd'hui le pape a élu domicile au Vatican et c'est pour ça qu'aujourd'hui le Vatican est en paix. Mais en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'un pape était nommé, les Vaticanais trouvaient la solution pour kidnapper le pape et le ramener au Vatican.
Ok. À partir de quand à peu près est-ce qu'on date le début de cette pratique d'aller voler le pape de l'Italie?
Limite, en fait, c'est au balbutiement aussi de la religion chrétienne, en fait. À partir du moment où elle est apparue, et il faut savoir que le pape, la représentation du pape est arrivée assez vite comme représentant de Dieu sur Terre, etc. Donc, assez rapidement, le Vatican, en fait, avait vu aussi le filon à tirer de ça, d'avoir cette représentation divine au sein même de son propre État, quoi.
Oui, c'est vrai que le Vatican, donc ses 825 habitants sont tous, bien sûr, de foi chrétienne. Et ça a toujours été le cas, en fait. Et c'est pour ça qu'il cherchait à s'approprier En fait, il voulait être l'État de la chrétienté, la chrétienté qui était distribuée dans plusieurs pays, partout en Europe. Et il voulait, eux, être le représentant de cette religion. Et donc avoir forcément la tête de la chrétienté chez eux pour qu'à terme, les chrétiens viennent immigrer au Vatican et que toute la religion chrétienne soit regroupée dans un même État, qui soit le Vatican.
Mais est-ce que ce n'est pas un État trop petit pour y inclure toute la religion
C'est pour ça que les gens se sentaient menacés et c'est pour ça qu'en final, ça n'a jamais été accepté. C'est qu'au final, il y avait dès le début, et encore aujourd'hui, certains le diraient, une volonté du Vatican de s'étendre et de conquérir justement les territoires voisins. C'est une tradition presque de ce pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que le Vatican est en paix, mais ça reste ancré dans les traditions de ce pays trop petit, qui veut devenir grand.
Et pour ça, c'est vrai que le Vatican a usé de beaucoup de stratégies pour s'étendre, pour gagner du territoire. L'histoire du Vatican est intimement liée au reptile, l'animal. Et une des premières méthodes, et qui s'est avérée une des méthodes les plus efficaces pour étendre son territoire, ça a été de répandre des reptiles, et particulièrement des lézards au début, dans les terres alentours, pour faire fuir les Italiens qui enclavaient le Vatican, pour s'approprier leurs terres.
D'accord, donc c'était vraiment un régime de peur et de terreur pour les territoires autour du Vatican.
De peur et de terreur, mais seulement voulu, mais ça n'a jamais vraiment fait peur aux autres pays, parce que kidnapper le pape, au final, on savait toujours qu'il se retrouve au même endroit au Vatican, qui n'est pas très grand, donc facile à fouiller. Et le fait de mettre des lézards dans tous les autres pays, les lézards, ce n'est pas très... ça ne fait pas peur, en fait.
C'est pas très menaçant.
Voilà.
Non, c'était limite... Moi aujourd'hui, avec le recul, j'ai envie de croire que c'était limite un jeu en fait entre les États et le Vatican, une sorte de gros loup touche-touche, comme on pourrait dire aujourd'hui. Vraiment, on allait chercher le pape, on le ramenait ici, les gens venaient le récupérer, on le ramenait. C'était une sorte de d'espèce de même d'immense cache-cache avec le pape. Donc bon, là ça. Il y a certains de mes collègues qui ne seront pas d'accord avec cette théorie. Moi, je vois ça un peu tel quel, limite comme un jeu de l'époque, en fait.
Ouais, je dirais pas jusque-là, parce qu'il y a quand même eu des répercussions. Enfin, je veux dire, il y a quand même 41 d'accord. papes qui ont été enlevés, et il y en a qui ont passé la plupart de leur vie prisonniers du Vatican. Oui. Je sais pas si on peut parler de jeu, mais
oui, voilà,
il y a quelque chose qui relève du comique, en tout cas.
Si c'est un jeu, c'est un jeu pas très drôle pour tout le monde. Enfin, on se souviendra tous de Silvia Betroni. Silvia Betroni, qui était à la tête du Vatican pendant beaucoup, beaucoup d'années. C'est celle qui a le plus longtemps régné sur le Vatican. Elle est restée 50 ans à la tête du Vatican. Elle a compté à son effectif l'enlèvement de 3 papes, dont un qu'elle a exécuté elle-même.
Ah oui, d'accord, donc on n'allait pas, c'était pas juste de l'enlèvement et après on
bah
le
après,
rend.
Là, il n'y a que Silvia Betroni voilà, qui a vraiment dérapé et qui justement, plutôt que de se faire reprendre le pape, a décidé d'assassiner le pape.
Bon bah voilà, après comme dans tout, il y a des mauvais joueurs, des mauvaises joueuses, bon bah, mais bref.
C'était Jean IV, le dernier pape qui a enlevé Silvia Betroni. Effectivement, on est en 623 après Jésus-Christ, et le Vatican est assiégé par l'Italie. Le Vatican lance des lézards par-dessus ses murs pour essayer de faire fuir les assiégeants, mais ça ne prend pas.
Et alors, ce n'est pas une métaphore, hein. Il lançait vraiment les lézards par-dessus les murs.
Ah oui, alors pour une raison que les biologistes ignorent encore, il y avait énormément de lézards sur ce petit bout de terre qu'est le Vatican. C'est une terre très fertile aux reptiles, mais je m'égare. Le Vatican est assiégé, il pénètre les murs, et Silvia Bertoni tue le pape elle-même en déclarant « si je ne peux l'avoir, personne ne l'aura ».
D'accord, donc une dimension très possessive en fait à l'appropriation du pape.
L'appropriation du pape et de la chrétienté, hein, par extension.
La chrétienté, en effet. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce personnage central, là, qui est Silvia Betroni, qui a vraiment eu un impact significatif dans l'histoire de ce petit pays qui, avant, faisait pas autant de remous, on va
oui,
dire.
Oui, enfin, il faisait quand même beaucoup de remous et c'est justement c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est avec Silvia Betroni que le déclin du Vatican va commencer parce que le moment où elle tue justement Jean IV et où elle se fait ensuite exécuter par les forces armées italiennes qui pénètrent dans la cité instantanément et ne cherchent pas à comprendre, c'est à partir de là où justement les Vaticanais sont divisés. Fallait-il tuer le pape ? Était-ce une bonne chose ? Silvia Betroni a-t-elle bien fait ? C'est à ce moment-là où justement le Vatican se divise. 825 habitants qui se divisent, ce n'est pas une belle chose à voir. Et c'est à ce moment-là où justement le Vatican perd ses repères, perd son organisation. Et le prochain kidnapping du pape, qui se fera ensuite, donc il n'y aura même pas de leader à ce moment-là. Donc c'est un peu un kidnapping qui sera fait par une partie des Vaticanais, sera un échec cuisant.
Oui, c'était assez étonnant de voir que justement dans cette division au sein de la population vaticanaise, des petits groupes se sont créés au sein même de cette population avec chacun des groupes voilà, une idée sur que faire, comment capturer le prochain pape, comment faire. Enfin, voilà, il y avait des sortes de pôles qui se créaient, certains voulaient le capturer, l'emmener au Vatican, d'autres le cacher ailleurs dans l'Italie. Enfin voilà, des pôles qui se sont créés au sein même du Vatican, de que faire de cette figure divine. Quoi.
Et que faire de cette figure divine et par extension, encore une fois, que faire de la chrétienté. Donc c'est des visions de la chrétienté qui s'affrontent et chacune de ces groupes, chacun de ces petits groupes, construit sa propre chapelle au Vatican. C'est pour ça qu'il y a énormément de bâtiments, religieux. Et alors, ils leur donneront des noms anglais, hein, Chapel 1, Chapel 2, Chapel 3, jusqu'à Chapel 20, qui était la dernière chapelle. Bon alors elles ont toutes été détruites malheureusement dans un incendie, il ne reste que celle qu'on connaît bien, la chapelle Sixtine, qui est la seule qui reste encore visitable aujourd'hui au Vatican.
Oui, et en fait, on peut revenir à Silvia Betroni, en effet, qui avait laissé un héritage fort, puisque c'est grâce à Silvia Betroni que la plupart des techniques d'enlèvement de pape ont été élaborées.
Elle a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet.
Exactement, et justement, dans ce livre, elle répertorie toutes ces techniques. Donc
enlever les papes pour les nuls.
Oui, exactement. La technique du trou, très simple, on creuse un trou, le pape tombe dans le trou, on récupère le pape. La technique du filet, on pose un filet au sol, le pape marche sur le filet, on ramasse le filet et le pape avec. Toutes ces techniques-là étaient répertoriées et toutes ces chapelles finalement qui ont été montées au Vatican étaient dédiées à une seule technique. En fait, chacun pensait qu'une seule technique était la bonne et personne n'arrivait à se mettre d'accord.
Oui, il y avait aussi... Et en fait, toutes ces techniques-là, enfin en tout cas certaines, ont donné lieu par la suite à des attributs de la religion chrétienne. Il y avait la technique de l'hostie qui consistait à mettre des plantes somnifères dans un petit biscuit et on la donnait au manger au pape. Le pape s'endormait, on récupérait le pape endormi. Et en fait, voilà, c'est toutes ces idées de comment enlever un pape qui ont donné tous les attributs qu'on connaît justement à la chrétienté. Le trou, on enterre nos morts dans cette religion, ça vient de la technique du trou. L'hostie que je viens d'expliquer, c'était à la base une technique d'enlèvement de pape, mais c'est devenu un attribut qu'on retrouve à l'Église. La croix, c'est pareil. Donc il y a énormément de... Toutes ces techniques d'enlèvement des papes, en fait, ont... contribuer à créer qu'est-ce que les symboles chrétiens.
Et si jamais tout est répertorié dans le Quam Capere Papa aux éditions Flammarion.
Les différentes techniques d'enlèvement du pape, vous êtes bien dans l'histoire avec un grand I. On se retrouve juste après la pause musicale.
Week-end à Rome, tous les 200 personnes, Florence, Milan, s'il y a le temps, week-end mutin, en bagnole fortune, variette mélo, à la radio, week-end mutin.
Voilà dans l'histoire avec un grand I, c'était Weekend à Rome d'Étienne Dao. Alors juste avant de faire cette pause musicale, on parlait des différentes techniques d'enlèvement du pape et comme beaucoup d'éléments de l'histoire, on les retrouve dans un film dont je vous passe un extrait tout de suite.
Ah oui.
Mais Pierre, Martin,
Jean.
Qu'est-ce que vous faites là ?
Mais qu'est-ce que vous faites là ?
Non, qu'est-ce que vous faites là ?
Non, on avait dit que c'était la chapelle du filet qui enlevait le pape cette année. La chapelle du filet qui enlevait le pape cette année.
Le filet, c'est tout juste bon à attraper des poissons, pas des papes.
Regardez, je suis venu avec mes pelles. Je viens ici creuser un trou pour capturer le pape et vous n'allez pas m'arrêter.
Un trou ! Comme c'est archaïque. Non. Arrêtez, tout le monde le sait, la seule véritable façon d'enlever un pape, c'est la chapelle de la prière.
La prière, hein,
mais c'est fini.
Vos mots n'attraperont plus personne.
Est-ce qu'on pourrait pas s'entendre juste pour cette fois ? Nos chapelles sont en train de se diviser dans notre pays natal. Notre pays est en train de mourir.
Qu'est-ce que tu veux dire, Pierre ?
Est-ce qu'on pourrait pas creuser un trou, poser un filet, prier ensemble, je sais pas, réussir à enlever le pape ensemble, comme au bon vieux temps de Silvia Bertoni ?
Tu veux qu'on enlève un pape tous les trois avec nos méthodes différentes ?
Ensemble ?
Mais...
Tant ça pourrait marcher, écoute-le, Martin.
Première fois que nous procédons de la sorte.
Mais imagine.
Mais non, nos ancêtres ont toujours fait comme ça.
Non, ils étaient divisés aussi.
Non, ils n'étaient pas divisés, ils étaient ensemble.
Si on met le filet au fond du trou, et qu'on est tous les trois cachés derrière un buisson à faire des prières pour que le pape tombe dedans. Peut-être que ça peut être une bonne méthode pour enlever le pape.
Bon.
Peut-être, mais je n'ai jamais prié.
Et moi, je n'ai jamais creusé de trou.
Je n'ai jamais touché un filet de mon existence.
Tenez-moi vos mains. Pierre Martin, je sais qu'on a eu des moments difficiles.
Je sais, moi aussi.
Mais je pense qu'on peut enlever ce pape tous les trois.
Je le pense aussi. Pour le Vatican.
Pour le Vatican.
Abeus Papam.
Abeus Papam.
Voilà, donc dans cet extrait de film, c'est très clair. On voit directement les divisions qui règnent au sein du Vatican avec chaque chapelle qui défend sa méthode d'enlèvement. Ce qui est étonnant ici, c'est qu'on arrive à un début de collaboration entre les Vaticanais qui arrivent à s'allier pour mettre au point un enlèvement groupé.
Oui, le film est romancé et épatant. C'est vrai que l'enlèvement, donc, c'est comme ça que ça se passe exactement. C'est-à-dire que plusieurs chapelles, plusieurs représentants du Vatican arrivent sur site. À l'époque, il était caché à Bombourg. Arrivent à Bombourg pour voler le pape. Ils se retrouvent exactement au même endroit. Et ils vont essayer de s'unir, justement, essayer d'unir les différentes techniques pour enlever le pape. Ce sera un échec cuisant. Donc c'est ce que montre la fin du film, qui est tragique, justement, où cette collaboration, finalement, ne mène à rien. Mais voilà, on a justement une tentative de réunification du Vatican, mais qui n'aboutira, finalement, à aucun pape.
Oui, c'est assez touchant dans le film, la manière dont c'est retranscrit. On retrouve effectivement ce dont on parlait plus tôt, à savoir les méthodes d'enlèvement qui deviennent des choses de référence au sein de la religion chrétienne. Là, encore une fois, on retrouve ce trio, voilà, ce rapport à la Trinité dans la religion, à la fin. Enfin, voilà, c'est l'église du trou qui arrive en dernier, comme dans la religion chrétienne, on va dans le trou à la fin. Enfin, voilà, il y a tout qui est assez...
c'est hautement symbolique. Hein.
Oui, c'est hautement symbolique. Moi, ça me touche fortement quand je vois ça.
Bon alors, c'est la première tentative ratée d'enlèvement du pape.
La première de l'histoire du Vatican, ouais. Ça il faut le noter.
On est en 721 et tous les papes depuis le 1er siècle ont été enlevés avec succès par le Vatican jusque-là. Mm-hmm. Donc c'est quand même pas rien. Et cet enlèvement raté sur Paul XII amènera quand même un tournant dans l'histoire, puisque Paul XII va se rendre de lui-même au Vatican.
Donc c'est un enlèvement raté parce qu'en fait il n'y avait pas d'enlèvement à faire puisque le protagoniste se rend lui-même sur les lieux du Vatican.
L'enlèvement sera raté de base, c'est-à-dire que les Vaticanais présents sur site qui vont tenter l'enlèvement vont se faire exécuter par l'armée française qui était préparée finalement à cet enlèvement qui les attendait. Donc l'enlèvement est raté, mais en effet, suite à l'enlèvement, Paul XII, peut-être touché par l'histoire de nos trois protagonistes qu'on vient d'évoquer, c'est peut-être une des raisons, mais Paul XII se rendra de lui-même au Vatican l'année qui suit.
En fait, il y avait cette réputation parmi les pontes de la religion qu'il faisait bon vivre au Vatican en réalité, et que c'est pour ça que les papes ne tentaient jamais de s'échapper. C'est parce que le Vatican, donc pays qui borde la mer, pays où il fait bon vivre, petit pays, mais du coup un peu comme un voisinage, une communauté, et puis pays dans lequel il y a beaucoup de lézards. On le sait, Paul XII avait un serpent comme animal de compagnie, donc ami des reptiles. Et on, voilà, toutes ces raisons ont pu amener Paul XII à se rendre aux portes des Vatican et à toquer pour qu'on lui ouvre, pour qu'on l'admette au Vatican.
Alors comment se déroule l'arrivée de Paul XII, comment est-ce qu'il est accueilli par le Vatican?
Alors il se passe plusieurs choses, des choses qui sont merveilleuses donc, pour le Vatican, et ça va mettre en lumière aussi une des plus grandes supercheries de la chrétienté en ce début de siècle. La première chose est que le pape est vraiment accueilli en grande pompe, c'est une grande fête au sein du Vatican, les portes sont ouvertes, c'est une grande fête au sein du Vatican. Paul XII est ravi. Voilà, on l'installe dans ses quartiers, une villa somptueuse avec vue sur la mer Méditerranée. C'est vraiment merveilleux. Là où Paul XII va commencer à déchanter et finalement va se dire qu'il y a un problème, c'est qu'il se rend compte que plusieurs papes qui étaient censés être morts et portés disparus possèdent également, eux, une villa au bord de mer. Et en fait, se rend compte que le Vatican agit comme une grande station balnéaire de papes.
Donc ces papes qui sont censés être morts ne sont pas morts. Ils profitent.
Ils se sont fait passer pour morts. Le Vatican qui a été décrié comme justement des monstres puisqu'ils enlevaient les papes jusqu'à ce qu'ils meurent et on devait changer de pape à chaque fois. En fait non, le Vatican agissait vraiment comme un refuge de papes.
Tout à fait. Le Vatican avait émis des faux actes de décès des différents papes qu'ils ont enlevés et donc il y en avait encore plusieurs en vie et d'où cette rumeur qui courait parmi justement les pompes de la religion chrétienne que le Vatican était une terre où il faisait bon vivre, où on avait envie de partir.
Est-ce que d'une certaine façon, le Vatican, c'est pas la première maison de retraite
Exactement.
Dans l'histoire.
Si on regarde l'histoire, si on prend du recul, le Vatican n'était qu'en fait qu'un gigantesque EHPAD pour pape.
Il y a toute une... Là, je reviens un petit peu parce qu'on a évoqué effectivement l'entrée en grande pompe. Juste pour placer ça, au cas où, il y a un super tableau qui retrace l'entrée de Paul XII, justement, dans l'entrée du Vatican, où, avec sa phrase mythique, quand il est rentré, « Estig mania », donc c'est super ici. C'est un tableau voilà, romantique de Jacques-Louis David, voilà, qu'on peut trouver dans le musée du Louvre. Et effectivement, juste à côté, c'est assez drôle parce qu'il y a justement, suite à cette entrée-là, un tableau juste un petit peu plus loin où ça s'appelle Paul XII face aux 37 autres papes vacanciers, voilà, où il est justement, il les trouve voilà, dans leur villa. Et là, c'est un tout autre... On voit un petit peu voilà, toute la chute dans l'espoir de Paul XII dans les yeux. C'est assez fascinant.
C'est cette image qu'on retient de Paul XII. Si vous allez sur Wikipédia, si vous allez n'importe où que vous tapez Paul XII, vous tombez sur cette représentation du pape Paul XII où il a un sourcil relevé, le sourcil gauche, où il paraît très interloqué. Et en fait, c'est cette image qui revient souvent lorsqu'on parle de Paul XII.
Il y a quelque chose qui est intéressant qu'on n'a pas encore évoqué, c'est qu'effectivement, il y avait 37 papes qui vivaient dans la station balnéaire. En fait, on est censé être pape à vie, en tout cas jusqu'à qu'on soit très vieux. Ce que Paul XII a mis en lumière, mais l'Église avait déjà des doutes là-dessus, c'était que tous les papes semblaient mourir très jeunes. Il y avait des papes qui mouraient à 26 ans, des papes à 30 ans. On se disait, c'est un peu bizarre quand même, dès lors qu'ils sont au Vatican, ils décèdent subitement alors que c'était des jeunes hommes en bonne santé. Effectivement, là on se rend compte qu'en fait non, c'est juste qu'ils n'étaient pas morts et qu'ils vivaient une belle vie heureuse. Donc il y en a pour certains, ça faisait 40 ans qu'ils vivaient la belle vie au Vatican.
Et ils sont accueillis du coup par ce peuple de Vaticanais, les 825 habitants qui s'occupent de ces 37 papes. C'est leur occupation principale ou est-ce qu'ils se gèrent de façon autonome dans leur villa?
Non, les Vaticanais accueillent bien évidemment les papes avec une grande ferveur. En fait, les Vaticanais voient ça comme une collection. C'est une grande collection de papes. En fait, c'est quoi le symbole le plus ultra de la chrétienté? Voilà, c'est leur idée. Hein. Vraiment, c'est pour eux le Vatican est le cœur de la chrétienté. Et c'est quoi le symbole le plus ultra de la chrétienté? Un pape. Et qu'est-ce qui est meilleur qu'un pape? Deux papes. 37 papes, ça fait d'eux vraiment le cœur névralgique de la chrétienté, incontestablement. Ils ont un nombre de papes, ils ont beaucoup plus de papes que tous les autres États.
Et c'est ça qui se passe justement au moment où Paul XII se sent obligé du coup de révéler la supercherie au monde, donc il envoie des missives par-delà les frontières du Vatican, dans toute l'Europe, et il annonce que 37 papes, en plus de lui, sont encore vivants. Et à ce moment-là, on se retrouve cette année-là avec 38 papes du coup, qui existent au même moment.
Et imaginez la réaction de Paul XII qui tombe sur Paul X, Paul XI, qu'il croyait mort depuis des années. Imaginez juste cette rencontre. Improbable.
Et est-ce que ça ne crée pas des incidents diplomatiques en disant bah, qui est le pape principal, qui doit prendre des décisions pour la papauté et pour la chrétienté? Ou est-ce que les 37 autres sont vraiment dans une démarche complètement farniente et sont vraiment dans une posture de retraite?
Ils ont raccroché leur étole il y a quelques années.
C'est au niveau des pays en fait et des évêchés où se pose la question en fait. Plusieurs pays d'Europe, plusieurs royaumes demandent à avoir leur pape à eux, puisqu'ils se disent bah, pourquoi s'il y a 38 papes, eh ben j'en prendrai bien un. Et en fait, chaque pays demande à avoir son pape. D'autres pays comme l'Allemagne à l'époque, la Germanie proposent qu'on exécute les 37 anciens papes, puisqu'ils sont censés être décédés, donc autant les exécuter. Et donc voilà, donc il y a des idées comme ça qui fusent un peu partout dans l'Europe. Il y a des tensions diplomatiques. Mais finalement, ce qui se passe surtout, c'est en effet un surplus de chrétienté au sein du royaume et vraiment une grande ferveur qui naît au sein de toute l'Europe pour cette religion qui était jusque-là connue, mais pas tant.
Non, il y avait beaucoup trop de chrétienté au même endroit. Donc bon, bah ouais, voilà, effectivement, au final, on a laissé les papes décider. Ils ont décidé de rester au Vatican.
Et de renoncer à leur titre de pape.
Oui, de renoncer à leur titre de pape, mais ce qu'ils avaient déjà fait pour la plupart, puisque bah, ils coulaient la belle vie au Vatican. Mais par la suite, le Vatican deviendra donc la terre des papes. Hein, c'est là que les papes habiteront. Et après Paul XII, tous les papes se rendront d'eux-mêmes. Il n'y aura plus aucun kidnapping de papes. Les papes se rendront d'eux-mêmes au Vatican.
Oui. Et quand même, il y a eu ce tournant dans l'histoire où il lui fallut un moment quand même désigner un pape en chef. Donc les autres voulaient quand même poser leur étole, comme vous le disiez. Et il s'avère qu'à un moment, c'était en décembre, je perds l'année, en tout cas un décembre très, très froid, et où les papes n'arrivaient pas à se chauffer. Et d'un seul coup, arrive Pie II. Pie II qui arrive au sein de la salle et qui fait « Attendez, j'ai une compétence. » Il allume un feu. Tous les Vaticanais et Vaticanaises voient la fumée sortir de la cheminée. Les papes se disent, ça sera toi, tu es capable de nous réchauffer, tu es capable de nous faire traverser l'hiver, tu seras le pape en chef.
Encore une fois, le symbole de la fumée voilà. Pour élire le nouveau pape. Voilà. Et c'est d'ailleurs ça qui a causé la disparition des 19 chapelles, où il ne restera plus que la chapelle Sixtine.
C'est vrai que ça aboutit sur ce grand incendie.
Un lézard a marché dans le feu, et le lézard enflammé a couru partout et a mis le feu à la plupart de la ville. Donc le grand incendie du Vatican, c'est aussi suite à ça. Donc Pie II, du bien mais du mauvais.
Pie II, du bien et du mauvais, ce sera le mot de la fin. Merci à notre équipe d'historiens, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré au plus pays du monde, le Vatican et son histoire de kidnapping de pape. Vous retrouvez l'émission sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram. Rendez-vous la semaine prochaine pour étudier un nouveau pan de l'histoire, l'Histoire avec un grand I.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.